La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec nos esprits libres du vendredi à 8h43 sur Radio Classique. Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate.fr, ancien directeur du Monde, et que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova sur Radio Classique, évidemment. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. On va parler de Mayotte pour commencer, le plus pauvre des départements français. Mayotte, hier, un enfant de 3 ans est mort du choléra. On est en France. Marine Le Pen s'est rendue là-bas pour faire campagne. François-Xavier Bellamy de LR s'y trouve en ce moment. Est-ce que Mayotte est l'angle mort de la République ?
En tout cas, c'est une image terrible. Et un chaudron aussi. Un chaudron presque identitaire. Parce qu'en fait, cette histoire du choléra, c'est une maladie de la pauvreté. C'est dans les bidonvilles. C'est quand il n'y a pas d'eau que du coup, les eaux impropres, on les touche, on les boit et du coup, on se contamine comme ça. Et c'est une maladie importée par les Comoriens. Et il y a déjà une tension sur l'immigration très très forte à Mayotte, les Mahorais n'en pouvant plus des Comoriens en disant c'est eux qui nous amènent tous nos problèmes, et le choléra est le syndrome de ça. Alors il y a 60 cas, c'est pas la maladie la plus grave en réalité, le choléra, elle se transmet pas d'homme à homme avec un vaccin, un antibiotique et de l'eau propre, normalement on s'en sort, mais ça peut être une étincelle qui met le feu à ces tensions comme ça entre communautés, parce que du coup les Mahorais disent en plus les Comoriens nous importent le choléra, et le choléra ça charrie dans l'imaginaire la saleté, la peste, enfin toutes ces maladies un peu ancestrale. Donc c'est pour ça que tout le monde se précipite politiquement là-bas. Il y a en ce moment le ministre de la Santé, hein, Frédéric Valletoux, qui y est aussi. Il faut faire très très attention.
Politiquement, Jean-Marie Colombani, la présence là-bas pendant la campagne des Européennes, vous allez me dire c'est le devoir des élus d'aller voir les Mahorais, mais tout de même...
Après, on peut évidemment appuyer sur là où ça fait mal et exploiter la chose, mais il faut se souvenir qu'au départ, quand les Comores deviennent indépendantes, ce sont les Mahorais eux-mêmes, enfin, c'est la population qui a voulu ne pas s'embarquer avec les Comores et rester française. Et ensuite, on a accepté d'en faire un département, ce qui était peut-être une erreur d'en faire un département, alors qu'il y a différentes façons d'organiser la proximité avec la République.
Que fallait-il faire ? Un territoire ? Une région ?
Il y avait 36 possibilités d'autonomie, de territorialisation qui ne soient pas la règle unique pour tout le monde. Et ce qui est paradoxal, c'est que on est quand même là, je ne sais plus maintenant, on doit être la 6e ou 7e puissance économique mondiale et on n'arrive pas à résoudre les problèmes de cette petite île. Premier problème, l'approvisionnement en eau potable, où on est obligé...
Un jour sur trois, il n'y a pas d'eau.
Donc on se pince, on se dit, mais que se passe-t-il ? Alors c'est vrai qu'il y a un équipement sanitaire qui est envié par tout l'environnement, mais qui est évidemment insuffisant parce qu'il est pris d'assaut. On cite souvent l'exemple de la maternité, ce qui va conduire à ce débat sur la fin du droit du sol à Mayotte, de façon à éviter justement cette situation. Mais le premier scandale, c'est cela. C'est un pays comme la France n'arrive pas à gérer la situation d'une si petite île et de la rendre plus prospère qu'elle n'est, avec tout ce qu'a évoqué tout à l'heure Cécile.
Et le système sanitaire est au bord du collapse. Là, il manque 70% des médecins.
Il y a une trentaine de médecins, mais ils sont évidemment en nombre largement insuffisant. S'agissant du choléra, en effet, ça n'est pas un problème en soi, parce que médicalement parlant, ça se soigne très bien, très vite. Mais en revanche, elle est menacée par une épidémie de dengue, par exemple. Et la dengue, c'est très lié aux conditions de vie, c'est très lié à la pauvreté, c'est très lié au traitement ou non des déchets. Vous comparez la situation, même à La Réunion et à Mayotte, avec la situation à l'île Maurice, où les gens sont beaucoup plus nombreux, mais plus disciplinés, d'une certaine façon. La situation sanitaire n'est pas la même. Donc voilà, on est réduit à cette... à être comme ça interloqué par le spectacle de ce qui s'y passe.
Malgré ça, des élus de la République vont y faire campagne.
Normal, ça, c'est normal. À savoir ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils vont proposer ou est-ce qu'ils vont simplement
dénoncer
comme par incantation, comme d'habitude, en disant c'est la faute de moi.
Fermer les frontières, point barre. Hein. Oui. En général, c'est ça ce que dit le Rassemblement national. Mais manifestement, c'est un peu plus compliqué que ça.
Cette campagne des Européennes n'est-elle pas dans les sables mouvant des ponts, des Jeux Olympiques, du beau temps qui revient. Est-ce que vous avez déjà vécu une campagne européenne comme celle-ci? C'est-à-dire un peu, à faune.
Oui, mais il y a au moins une bonne nouvelle dans tout cela, c'est l'arrivée de la flamme quand même.
Oui, c'est parce ça qui vous réjouit.
Oui, absolument. Il suffisait de regarder le nombre des Marseillais, le visage réjoui des Marseillais, l'ambiance qui y régnait pour voir qu'il y a un effet Jeux Olympiques. Il y a une attente, en tout cas, de moments partagés plus conviviaux, plus heureux.
Il y a une morgue. Est-ce qu'il y a une morgue parisienne ou une morgue française mépriser ce caviar événementiel les Jeux Olympiques?
Je pense, alors vous savez, Emmanuel Macron lui a beaucoup reproché sa formule sur les Français réfractaires. Mais il y a aussi des Français qui sont volontiers grincheux. Il fait beau aujourd'hui. Vous avez remarqué, il fait beau aujourd'hui. Attention, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure demain? C'est ça, le temps.
Surtout avec français. Les prévisions bidons de Météo France.
Exactement.
Hein, excusez-moi, monsieur.
Et donc, on est toujours, en relisant des articles de l'entre-deux-guerres, il y a eu une exposition universelle à Paris dans les années 30. Et elle a été précédée de campagnes de presse en disant c'est la fin du monde, c'est catastrophique, ça ne sera jamais prêt, ce ne sera jamais comme il faut, etc. Et puis quand l'exposition est arrivée, elle a rencontré un franc succès. Quand les Jeux Olympiques arriveront, je pense qu'ils rencontreront un franc succès parce que les gens ont besoin en même temps de se retrouver dans des circonstances de cette nature. Il faut retrouver un peu de joie de vivre malgré tout, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur le gouvernement.
Cécile Cornudet, les politiques ont du mal avec la joie de vivre. J'ai le souvenir de débats des primaires socialistes, me semble-t-il. Alors, je ne sais plus de quelle élection présidentielle il s'agit, mais chacun des candidats aux primaires socialistes s'adressait aux Français en utilisant le mot victime, en victimisant tout le monde. Et il y avait ce pessimisme et ça plombait tout.
Parce qu'ils essayent d'être l'éponge.
Les socialistes n'ont pas le monopole.
Non, bien sûr. Victimiser les Français, c'est un sport collectif.
Ils essayent d'être l'éponge du sentiment national. Et on sait que dans les sondages, on est une des nations les plus pessimistes, alors qu'on a tellement d'avantages. Donc les politiques, cherchent à capter l'état d'esprit. Et au lieu d'être faire de porter la flamme de l'optimisme. Mais c'était un peu ce qu'avait essayé de faire Emmanuel Macron. C'était,
nous retrouverons les jours heureux.
Voilà, c'est ça. C'était l'optimisme. C'était on va y arriver. Et ce qui fait du mal un peu au pays, c'est les difficultés justement de la Macronie. Parce que du coup, on a l'impression que ça nous renvoie toujours. On pense, globalement, je pense que le pays se disait c'est le vieux système politique qui est l'auteur de tous nos maux. Ils n'ont rien compris. C'est les syndicats. C'est tout ce système-là qui ne va pas. Et en fait, on se rend compte que la nouveauté derrière, elle n'est pas forcément beaucoup mieux. Donc, c'est un peu triste.
Les élections européennes, c'est demain, c'est dans moins d'un mois maintenant. Le 9 juin.
Non, mais là, ça bouge un peu.
Il y a un espace pour faire campagne. Oui, est-ce que les gens se réveillent?
Ça bouge un petit peu. L'intérêt, vous savez, les sondeurs mesurent l'intérêt. En fait, il y a plus d'intérêt, paradoxalement, pour cette campagne. 60% des gens se disent intéressés, je crois, que pour la précédente, il y a 5 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se déplacer. Je pense que la guerre en Ukraine, le Covid a donné quand même à voir que l'Europe, elle pouvait avoir des avancées concrètes qui nous protégeaient, etc. Il se passe quand même quelque chose de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est en général dans les derniers jours que les gens se décident. C'est un scrutin qui paraît très loin, l'enjeu paraît très loin. On n'a pas l'impression qu'on va changer notre vie en mettant tel ou tel bulletin de vote, d'où d'ailleurs la force du vote sanction ou pas à ce moment-là.
Alors ça frémit du côté des européennes, mais un événement qui n'a pas changé grand-chose, c'est cette visite du président Xi Jinping à Paris. Alors, si vous n'êtes pas parisien, vous n'avez pas vu des quartiers immobilisés, des avenues bloquées, des barrières métalliques
partout.
On
va pas faire les parisiens à l'heure.
Non, on va pas râler. Ce que je veux dire, tends la perche à Colombani qui voulait dire un mot sur cette visite de Xi Jinping en France. Quel bilan peut-on en tirer? C'était un anniversaire, 60 ans de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Il y a quelque chose de positif à en tirer?
Le seul chose positif, c'était sa venue en France. En effet, cet anniversaire méritait d'être célébré, les 60 ans de relations diplomatiques. C'est vrai aussi qu'il y a d'immenses enjeux avec la Chine. Il y a les enjeux français avec la Chine, il y a les enjeux européens vis-à-vis de la Chine, et puis il y a le grand enjeu géostratégique de la bataille entre les États-Unis et la Chine. Tout ça est vrai. Donc les Pyrénées, c'est beau. Les cadeaux du président étaient appréciés, ainsi de suite. Tout ça, je n'ai rien à dire de critique là-dessus. En revanche, après, il va à Budapest et à Belgrade. Il va donc en Hongrie et en Serbie. Et là, il retrouve des accents qui n'ont rien à voir avec ce qu'il nous a montré en France. Il retrouve un éloge vibrant de la politique extérieure de Viktor Orban qui est totalement lié à Moscou. Et donc, c'est un rappel pour nous de l'alliance entre la Chine et la Russie. La Chine balayant son dogme fondamental, le dogme fondamental de la Chine, c'est pas d'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Qu'est-ce que c'est que la guerre de la Russie contre l'Ukraine si ce n'est une ingérence? Et pourtant, il se place du côté de la Russie. Et il vient nous rappeler qu'ils sont unis dans un combat idéologique contre l'Occident. C'est ça que nous rappelle cette visite.
Donc un voyage pour rien, une visite pour rien.
Pas une visite pour rien.
J'en ai rien à faire, en gros, c'est
voilà.
Ça ce que ça veut
mais
dire.
C'est surtout une visite qui devrait nous servir de rappel, de piqûre de rappel, de ce qu'est vraiment le combat de la Chine aujourd'hui, par l'appui qu'ils apportent à la Hongrie et à la Serbie, qui part par ailleurs, la Serbie qui est candidate à l'Union européenne, donc je pense qu'il vaudrait mieux différer cette candidature.
Philippe Torreton, acteur, comédien, était dans ce studio tout à l'heure, on va finir avec du cinéma également. Vous avez lu l'interview à Elle du président de la République, Cécile Cornudet, et peut-être aussi vous, Jean-Marie Colombani. Le président essaye de rectifier un peu la sortie un peu indulgente qu'il avait faite sur Gérard Depardieu. C'est la session de rattrapage, le magazine Elle.
Oui, parce que vous avez sans doute pas vu ça dans les sondages, mais l'électorat féminin est parti beaucoup sur Raphaël Glucksmann. Emmanuel Macron a fait de ces deux quinquennats la défense des femmes sa grande cause, et malgré tout, c'est en une phrase pour de défense. Peut-être excessive, là, et Depardieu, c'est notre fierté française, et s'apitoyant assez peu sur les éventuelles victimes, il a tout mis par terre. Donc là, on sent qu'il essaye de rattraper. Donc il y a un discours beaucoup plus mesuré sur Gérard Depardieu et sur la défense des éventuelles victimes. Et puis, il y a toute une série de mesures pour la ménopause, la lutte contre la fertilité, enfin. Et on peut se demander pourquoi faire cette interview au plein milieu de la flamme olympique, là, à Elle, maintenant.
Il y a le festival de Cannes mardi.
Il y a le festival de Cannes qui risque d'être très dur sur cette
oui,
question.
Et oui, alors justement, c'est ma dernière question.
Mais il y a surtout aussi les élections européennes, parce que s'il ne bouge pas non plus.
Et c'est le meilleur tirage de l'année de Elle, oui. À cause du grand.
Or là, si vous voulez, il a voulu effacer une faute, son attitude vis-à-vis de Depardieu, par une maladresse de plus, parce que dire qu'il n'a jamais soutenu Depardieu, au fond, c'est une très mauvaise défense de sa part. Il aurait été plus facile, enfin plus facile.
Il n'a pas dit ça, il dit qu'il défend la présomption d'innocence.
Oui, d'accord, mais enfin, il aurait été plus mieux venu de sa part de faire un minimum d'autocritique. Il fait souvent l'éloge, il dit « je reconnais mes erreurs », etc. Mais là, ouais, il aurait mieux fait de le reconnaître sans erreur, parce que c'était évidemment inacceptable.
Jean-Marie Colombani, on parle de listes qui seraient révélées au moment du festival de Cannes, d'acteurs qui seraient dans le collimateur de MeToo. C'est pas des méthodes de faire courir des bruits comme ça, de listes anonymes, c'est du macartisme qui ne dit pas son nom.
Oui, puis c'est aussi, il peut y avoir quelques influences étrangères aussi, parce que l'aide apportée à certains hashtags viennent directement de l'extérieur. Donc là, ça peut être aussi un scénario du même type.
Méfiez-vous sur les réseaux sociaux des sites bidons. Merci à tous les deux, à la semaine prochaine. On se quitte avec un des génériques de films les plus connus du monde, composé par Max Steiner en 1938. Max Steiner est né un 10 mai 1888 à Vienne, en Autriche, et il a composé la musique d'un des plus grands films de tous les temps. Vous allez le reconnaître, évidemment.